Une conférence organisée par l'European Jewish Press Association, l'EJPA, si vous préférez, intitulée cette conférence « Le massacre du 7 octobre, un an après la guerre de Gaza et l'escalade avec le Hezbollah, bras droit de l'Iran. Que va-t-il se passer ensuite ?» Ça, c'était pour le thème de cette conférence qui avait lieu hier à Bruxelles. Gaif Al-Omari, spécialiste de la Palestine et chercheur associé au Washington Institute, intervenait au cours du premier panel de cette conférence sur le thème Gaza, Liban, Iran, Judée-Samarie, Yémen, un an après le 7 octobre. On écoute maintenant Gaït Al-Omari.
Hi, Gaït Al-Omari.
Bonjour, Gaït Al-Omari.
Désolée
pour l'erreur d'orthographe dans votre nom. Vous êtes expert de la situation de la Palestine au Washington Institute. Vous êtes ici pour parler au deuxième panel de cette conférence qui marque le premier anniversaire depuis le 7 octobre. Pourquoi est-il si important pour vous aujourd'hui de parler de ce sujet? Nous sommes maintenant à un point carrefour du conflit. Cela peut prendre plusieurs directions différentes.
Gaza is moving towards a different phase of the war.
So I think there are many important policy questions. Ce qui se passe au Liban pourrait avoir des implications régionales. Gaza entre dans une phase différente de la guerre. Donc je pense qu'il y a de nombreuses questions de politique importantes auxquelles nous devons faire face. Il y a aussi beaucoup de désinformation à ce sujet. Il est donc très important de continuer à communiquer avec les journalistes occidentaux afin de continuer à s'assurer que les décideurs et les journalistes soient conscients des principaux développements de cette guerre et des défis et des opportunités qu'elle reprend dans la région. Alors, une question très opérationnelle pour commencer. Quelle est la situation? Alors, à Gaza, le Hamas, en tant que force militaire, a été vaincu, mais continue d'exister en tant que groupe d'opposition armée. Et le traitement d'une insurrection est très différent de celui d'une force militaire. À l'heure actuelle, la campagne de sécurisation du territoire est en cours, mais la grande question qui se pose reste, c'est une guérilla urbaine. Il faut non seulement assurer la sécurité, mais aussi mettre en place une structure gouvernementale suffisamment forte pour assurer sa pérennité. Et donc il faut identifier qui va gouverner. Et c'est une question qui exige un effort de la part de tous, Israéliens et Palestiniens. Faut-il établir une autorité palestinienne forte? Le monde arabe est prêt à participer à ce processus. On entre maintenant dans une des phases finales et je pense que la communauté internationale ne sera pas impliquée dans ce qui se décide aujourd'hui. En réalité, j'ai du mal à imaginer des troupes et des personnes européennes ou américaines sur le terrain. Nous avons besoin de la communauté internationale pour créer la structure nécessaire à la mise en place d'un bouclier. Mais il s'agit, à mon avis, d'un problème régional propre au Moyen-Orient et je pense vraiment que le Moyen-Orient doit s'en occuper lui-même. Grâce aux accords d'Abraham, en plus de la paix avec la Jordanie et l'Égypte, je pense que la région a l'occasion de commencer à prendre ses responsabilités avec le soutien de la communauté internationale, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas attendre de la communauté internationale qu'elle résolve nos problèmes. Ces derniers jours, Israël a revendiqué un certain nombre d'éliminations, notamment le chef du Hamas au Liban. Est-ce que cela peut avoir un impact sur le déroulé de la guerre? Au Liban, le chef du Hamas n'est pas important. Nous n'avons pas eu le vrai chef du Hamas. En revanche, ce qui se passe avec le Hezbollah est stratégiquement important. Tout d'abord, il ne s'agit pas seulement d'assassinats, mais d'éliminations. Israël s'est débarrassé maintenant de toute la structure de commandement du Hezbollah et j'ai du mal à imaginer comment elle peut fonctionner normalement à présent. Non seulement le premier échelon, mais aussi le deuxième, troisième et quatrième échelon ont été éliminés. Et ce n'est pas seulement important en termes de sécurité pour le nord d'Israël. Il s'agit, je le répète, d'une question régionale, le Hezbollah étant le principal mandataire de l'Iran. Le Hezbollah est l'instrument principal que l'Iran utilise pour protéger son pouvoir dans la région et former ses mandataires au Yémen et en Irak. S'il est neutralisé, cela apaisera la situation à la frontière israélienne et servira d'exemple également pour l'ensemble de la région.
Stability in the Israeli border, but it will also create implications for the region and will weaken significantly Iran's capabilities.
Et cela pourrait-il avoir un impact sur les négociations sur l'accord de libération des otages? Je pense que dans un premier temps, l'impact sera négatif. Le Hamas souhaite une guerre régionale et il attendra de voir comment les choses se déroulent. Il attendra de voir si les Iraniens interviennent, par exemple. Je pense que dans quelques semaines, lorsqu'il verra que le Hezbollah a été vaincu et que l'Iran s'est révélé être un château de paille, il sera soumis à une forte pression pour parvenir à un accord. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour vraiment constater un impact. Je pense qu'on ne doit pas s'attendre à un impact maintenant, mais plutôt dans les deux ou trois semaines. Dans quelques mois, nous pourrions nous trouver dans une situation très différente. Vous gardez espoir alors qu'un accord puisse aboutir? Aujourd'hui, non. Je ne pense pas qu'un accord puisse aboutir. À moyen terme, peut-être, dans deux ou trois mois, j'ai bon espoir. Mais l'accord en soi est-il le plus important? Que se passera-t-il après l'accord? Quelles sont les conditions de l'accord? Le Hamas pourra-t-il conserver ses armes? Le Hamas en tirera-t-il les avantages politiques? Telles sont les questions qui se posent. Parce que ces questions, vous savez, un accord c'est bien et cela crée bien sûr un soulagement d'un point de vue humanitaire, les otages sont libérés, la guerre à Gaza prend fin. Mais si nous ne concluons pas un accord garantissant que le Hamas n'a pas d'armes, je crains que le même problème que nous ayons aujourd'hui se représente dans 10 ans. L'accord doit donc être conclu dans de bonnes conditions. Dernière question, devrions-nous nous inquiéter du fait que l'Iran participe à cette guerre? Bien sûr, je ne veux pas être désinvolte du tout à ce sujet, mais ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que les capacités de l'Iran sont plus limitées que ce que nous attendions. Vous vous souvenez qu'en avril, lorsque les Iraniens ont tenté de riposter à Israël, ce fut un échec. Oui, ils ont échoué parce qu'Israël était protégé par ses alliés. Est-ce que ce sera la même chose si ses alliés se retirent? Il n'y a aucune raison que les alliés d'Israël se retirent. Les relations sécuritaires dans la région sont plus solides que jamais et je ne pense pas que ça change dans un futur proche. Mais surtout, l'Iran est aujourd'hui confronté à un dilemme. Si l'Iran intervient, il sera entraîné non seulement dans la guerre avec Israël, mais aussi avec les alliés d'Israël. Et ça, l'Iran en est bien conscient. D'un autre côté, s'ils ne font rien, leur position au Moyen-Orient se retrouvera très affaiblie. Je pense qu'ils essaieront de trouver un équilibre entre ces deux problématiques. À mon avis, ils feront quelque chose de symbolique. Mais bien sûr, il y a toujours un risque. Mais bon, en fait, l'Iran est déjà impliqué, non seulement au Liban, mais aussi en attaquant les alliés. Nous voyons qu'il cible, par exemple, les forces américaines en mer Rouge pour empêcher la navigation. Il est important que l'Iran apprenne qu'il y a un prix à payer. Et s'il décide de s'impliquer militairement, je pense que les alliés d'Israël ont de grandes capacités pour s'assurer que l'Iran le regrettera.
Israel and its allies have a lot of capabilities to make sure that Iran pays a huge price.
Vous avez mentionné les États-Unis qui restent un acteur très important dans la désescalade dans la région. Dans un mois, il y aura de nouveaux dirigeants à la tête des États-Unis. Est-ce que cela aura un impact?
Now, in a month, there's going to be a change in leadership in the US. Is there going to be an impact? Is this already an impact in this war?
I don't think so. I mean, look, in the short term, yes. I mean, right now, everyone knows that President Biden does not really have, the clout to impact. Everyone is looking to the next election, but it's only a few weeks.
En fait, je ne pense pas. Pour l'instant, tout le monde sait que le président Biden n'a pas vraiment le poids nécessaire pour avoir un impact. On cherche à avoir un impact. On se tourne vers les prochaines élections, mais elles n'auront lieu que dans quelques semaines. Je pense que si Kamala Harris remporte les élections, cela renforcera le poids de Joe Biden, qui continuera comme conseiller privilégié à avoir un impact sur la situation au Moyen-Orient. Si Donald Trump gagne, cela n'aura pas vraiment un énorme impact non plus, car il ne veut pas la guerre au Moyen-Orient. Il a été très clair à ce sujet. Tous les acteurs en présence savent qu'avant la fin de l'année, il faudra réduire les opérations dans la région. C'est donc une course contre la montre, mais en fin de compte, je pense que la date limite est la fin de l'année lorsque nous aurons un nouveau président.
Al-Omari, Palestinian expert and senior fellow at Washington Institute. Thank you very much for your enlightenment and see you soon.
Thank you.